Alors, je termine simplement l'enseignement de ce matin en reprenant les choses sous l'angle de l'adoration, faire plus comprendre encore le lien entre la charité et la justice. La charité, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout, plus que tout, plus que nous-mêmes, et aimer son prochain pour l'amour de Dieu, en Dieu et avec Dieu, comme dirait Benoît XVI, mais à l'intérieur de cette relation à Dieu. C'est ça que nous avons du mal à comprendre et à vivre, hein, c'est d'aimer l'autre en Dieu, là où on passe un amour humain à un amour divin. Et l'adoration, c'est cette prosternation de nous-mêmes, cette totale remise de nous-mêmes à Dieu comme notre Créateur, dans la reconnaissance que tout vient de lui, dans la reconnaissance de notre dépendance à lui. Donc on pourrait dire que la charité est d'abord adoration, mais une adoration amoureuse. Benoît XVI fait remarquer que le mot adoration en grec a une connotation différente qu'en latin. Et en grec, c'est proskinesis, signifie, dit Benoît XVI, le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure, dont nous acceptons de suivre la règle. Et que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, se croire absolument autonome, mais s'orienter selon la mesure de la vérité et du bien. Voyez donc dans le terme grec pour signifier l'adoration, y compris la justice. Je m'ajuste à Dieu. Dieu est ma mesure. Jean-Paul II avait dit, l'homme est la mesure de tout, et la mesure de l'homme, c'est Dieu. L'homme se laisse mesurer, c'est pas nous qui décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal, nous recevons la loi qui doit diriger notre vie, nos actions, de Dieu. Eh bien, comment dès l'origine, l'homme a été tenté par rapport à cette soumission à la mesure de Dieu, voulant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire décider de lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, voyant notre société qui précisément refuse toute mesure, toute loi naturelle, toute dépendance au Créateur. C'est l'homme qui veut être son propre Créateur. Y compris ne pas dépendre d'une sexualité déterminée. Alors, l'adoration donc a cet aspect de renoncement à notre autonomie, de soumission. Et puis il y a un autre aspect en latin que Benoît XVI dit, le mot latin pour adoration est ad oratio. Alors là, vous allez être étonné. Traduction littérale. Contact bouche à bouche. Baiser, accolade. Et donc, en définitive, amour. L'adoration amoureuse. Donc, vous voyez, d'un côté, l'adoration, soumission, et là, Benoît XVI nous avertit, hein, notre soif de liberté résiste à une telle perspective. Il y a quelque chose en nous qui résiste, mais c'est aussi la conséquence du péché originel. Hein. Il y a en nous qui refuse de dépendre comme ça de Dieu, comme si c'était une perte de notre liberté, de notre vie. Et de l'autre côté, le bouche à bouche, où l'adoration devient union, là qui nous attire, parce que c'est l'amour avec un grand A, parce que c'est l'extase, cette relation amoureuse qui est attractive face au Dieu fait homme passionné. Donc Benoît XVI a cette belle pensée que nous pourrons vivre adoration-soumission, proskinesis, que si nous vivons l'adoration, le bouche à bouche avec Dieu, de cœur à cœur, si vous préférez. Mais, donc ici, on pourrait voir la justice enracinée dans la charité. La justice qui a besoin d'être vivifiée par une relation aimante, amoureuse avec Dieu. Charité, c'est pas être charitable comme on l'entend. Charité, c'est du feu. C'est aimer Dieu plus que tout. Quand je dis charité, c'est traduisé amour divin. Hein, il y a toute une génération dans laquelle charité, ça sonne dame de charité. Enfin, on a des fantasmes comme ça. Non, charité divine, hein, le feu de l'amour divin. Vous voyez, ici, à travers cette remarque de Benoît XVI sur les deux aspects de l'adoration, on comprend mieux que la vertu de justice ne peut être bien vécue que si elle est animée de l'intérieur par un amour qui nous permet de réellement nous ajuster à Dieu en toutes choses et de nous soumettre à la vérité et de nous soumettre à la loi naturelle. Et voyons bien comment dans une société qui refuse d'adorer Dieu, ben, tout se décompose au niveau de cette reconnaissance d'une vérité que nous ne créons pas mais qui est inscrite naturellement en nous, à laquelle il faut nous soumettre si nous ne voulons pas nous détruire nous-mêmes. Dans un rêve fou d'autonomie. Les tentations de notre société sont les nôtres. Maurice Clavel disait le péché de l'homme moderne, c'est le péché originel au carré. C'est dans notre cœur que tout ça se vit. Chacun vit les tentations de manière différente, mais les combats spirituels sont les mêmes. Chaque âme a les mêmes combats à affronter. Nous sommes tous solitaires. Il ne s'agit pas de diaboliser le monde moderne et tout ça. Il s'agit de comprendre là où est le cœur, la racine du mal, en nous-mêmes, pour pouvoir, comme je vous l'ai dit ce matin, la surmonter et la surmontant, aider les autres à la surmonter. Moi, je ne me bats contre personne. J'ai qu'un seul ennemi, le démon. Je suis de plus en plus conscient. Combattons pas contre des êtres de chair et de sang. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons une responsabilité beaucoup plus grande parce que nous avons la lumière de l'Évangile qui nous avertit de la profondeur de ce combat. Et souvent, nous sommes face à des gens qui sont... Il n'y a pas la lumière de la foi... sont pris dans un combat dont qu'ils ne perçoivent pas. Alors, vous voyez comment finalement, pour reprendre l'expression du cardinal Ratzinger, qui a eu beaucoup d'impact, c'était il y a peut-être 25 ans, il a eu cette belle formule au commencement et l'adoration. Au commencement et l'adoration. Commencement de toute vie véritable, de toute vie juste et aimante, et l'adoration. Premier commandement, tu adoreras Dieu. Et la justice découle donc une forme d'expression de l'adoration. La justice, c'est l'adoration en acte dans la vie quotidienne. Si je reconnais que Dieu est Dieu et que je vis pour Dieu et que j'accepte de dépendre amoureusement de lui comme créature et comme enfant, peu davantage encore, je ne peux que me prosterner dans ma vie concrète, dans une totale soumission aimante à ses commandements, m'ajuster continuellement à sa volonté. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, dit Jésus. La justice, c'est quoi? C'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Ici, je reprends le catéchisme. Parce que peut-être vous n'avez pas bien entendu. La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu au prochain ce qui lui est dû. Vous avez bien entendu? De donner à Dieu et au prochain. Dans notre société, c'est simplement de donner au prochain. Ici, c'est à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Résultat, la justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Vous avez déjà entendu parler de vertu de religion ? La première fois que vous l'entendez, hein ? De votre vie, hein ? Ouais, on est d'accord. Hein ? Eh bien, la première manière d'être juste, c'est d'être religieux. On dirait ça hein, au Sénat actuellement. L'homme juste, c'est l'homme religieux. Hein ? C'est incroyable hein, d'en arriver à dire des choses comme ça aussi énormes. Hein ? Aussi contraire à la pensée correcte. Hein? Parce que l'homme religieux, c'est celui qui rend à Dieu ce qui est à Dieu. C'est en rendant à Dieu ce qui est à Dieu qu'on pourra rendre à César ce qui est à César. La justice humaine, elle repose, enfin la justice dans la relation aux autres, elle repose d'abord sur cette relation fondamentale qui est la relation à Dieu. Et donc, rentre à Dieu. Vous savez le commentaire des pères d'Église, parce qu'il y a cette question de la monnaie, là. Montrez-moi qui est l'effigie de cette pièce. Elle est frappée à l'effigie de César. Hein? Parce qu'il est frappé à l'effigie de César, rendez à César ce qui est à César. Et qu'est-ce qui est frappé à l'image de Dieu ? L'homme. Rendre l'homme à Dieu. Voilà la justice. La première justice, se rendre soi-même à Dieu, se restituer à Dieu. Nous venons de Dieu et nous sommes pour Dieu, nous lui appartenons. On rend son âme, on remet son âme à Dieu. Ça, l'adoration. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je lui appartiens, je vis pour lui, je me remets à lui. Je l'adore. Je ne vis pas pour moi-même, mais pour lui. Complète soumission. Complète remise de Dieu. Et ce n'est que pure justice. Et c'est la première justice. Et la plus grande injustice, c'est de ne pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De refuser l'adoration. Et cette plus grande injustice est à l'origine de toutes les autres injustices. C'est le déséquilibre fondamental, l'injustice première. Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi ? Ben, concrètement, ça veut dire que dans ma journée, je dois donner un engagement prioritaire à la relation à Dieu pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La vie religieuse, la vie, parce que la vertu de religion s'exerce à travers notamment deux actes. Enfin, le premier, c'est l'adoration. Et ensuite, la prière, le sacrifice. Le sacrifice, c'est toute action que l'on fait pour Dieu, pour s'unir à Dieu, dans l'esprit d'obéissance. Le sacrifice, c'est l'obéissance. Bon, sacrifice, ça peut être aussi tous ces renoncements que l'on fait pour se disposer. Hein, le jeûne, des choses comme ça, mais plus largement, c'est toute action que l'on fait en vue de s'unir à Dieu. Hein, on s'unit à Dieu dans la prière, mais aussi par le sacrifice. La vertu de religion, c'est la vertu qui nous relie à Dieu, concrètement, dans cet esprit d'adoration. Religion. Bon. Et donc, pourquoi je dis ça ? Je dis que l'homme juste est l'homme qui commence à donner, qui commence dans chaque jour à donner à Dieu la première place, tout simplement. Ce qui est juste. L'engagement prioritaire de notre vie quotidienne, disait Jean-Paul II, c'est la prière et l'écoute de la parole. On pourrait ajouter évidemment l'Eucharistie, si c'est possible, de mettre l'Eucharistie au centre. La prière au centre, l'écoute de la parole au centre. Écoutez Benoît XVI. Avant tout, nous devons sortir de nous-mêmes et nous ouvrir à Dieu. Rien ne sera à sa place tant que nous ne serons pas à notre juste place par rapport à Dieu. Rien ne sera à sa place dans notre vie, ne sera ajusté, ne sera équilibré, tant que nous n'aurons pas mis Dieu à sa juste place. C'est vrai pour notre vie personnelle, c'est vrai pour la vie de la société. Aucun autre problème humain et social ne pourra être vraiment résolu, dit Benoît XVI, si Dieu ne revient pas au centre de notre vie. Il faut voir là où est le déséquilibre fondamental et à partir de quoi peut se rééquilibrer l'ensemble. Remettre Dieu au centre, tout simplement à sa juste place. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. Vous voyez, c'est une perspective bien différente que de celle de dire, bon ben, il faut d'abord être juste dans ses relations avec les autres, et puis ensuite, ensuite il y a Dieu, quoi, on rajoute Dieu. On rajoute du Dieu en plus, au cas où on aurait des affinités avec... avec Dieu, on peut rajouter une couche de religieux éventuellement. Non, la religion est première, vertu de religion, première forme de la justice. Et ça avant d'assimiler ça, à un moment, on est tellement déconnecté de cette manière de voir, mais j'ai été très surpris en lisant le procès de canonisation de Saint François de Sales. Sainte Jeanne de Chantal témoigne. Et au moment où on étudie, parce que dans un procès de canonisation, on étudie les quatre vertus cardinales, pour voir comment le saint les a vécues. Et elle veut montrer que Saint François de Sales était un homme juste. Elle commence par montrer qu'il était religieux, qu'il mettait Dieu en premier dans sa vie. Et ça lui paraît naturel. Vous voyez là, on voit à quel point on est déchristianisé, en profondeur, dans notre manière de comprendre le réel, de voir les choses, à quel point on a remonté une pente, la laïcisation s'est faite à l'intérieur de l'Église.
Puisque le père parlait du Sénat, juste une petite remarque. Nous sommes intellectuellement déchristianisés, mais il faut bien voir que, j'allais dire, le camp d'en face, lui, voit très bien la relation entre loi naturelle et vertu de religion. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans les débats cette semaine, à deux ou trois reprises, alors qu'évidemment, il était assez rarement question de Dieu dans les débats. À deux ou trois reprises, les critiques, notamment des sénateurs verts, qui sont les plus virulents sur le mariage dit pour tous, leur critique disait « vous les chrétiens, vous qui voulez imposer votre morale à tout le monde ». Et évidemment, les sénateurs UMP essaient de se défendre plus ou moins maladroitement, mais il faut avoir en tête que il y a quelque chose de vraiment intrinsèquement lié entre la loi naturelle et l'adoration du Créateur. Et si nous, on ne s'en rend pas compte, d'autres s'en rendent compte pour nous. Il vaudrait mieux que nous aussi, on en soit conscient.
Oui, mais sur ce terrain de notre dépendance au Créateur, de dépendance à une loi, on a un combat commun avec tout homme religieux. C'est-à-dire avec nos frères juifs et musulmans. Notre conscience, là, il y a un fond commun. C'est vrai que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration amoureuse, me semble-t-il, je pense pouvoir l'affirmer, elle ne peut se vivre que face à un Dieu amoureux. Et le Dieu amoureux, c'est le Dieu fait homme passionné. C'est le Dieu qui a pris cher pour s'unir à nous, amoureusement, jusqu'à s'unir à nous sur la croix, comme sur un lit nuptial. Et ça, c'est sûr qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du prosternement de notre esprit, de notre cœur, amoureusement à Dieu, si on ne vit pas sa foi face à un Dieu, j'allais dire, qui se prosterne devant l'homme, qui s'abaisse devant lui et qui se donne dans un amour pur et gratuit, et pas simplement un Dieu qui exige d'être reconnu comme Dieu. Parce qu'il est de fait le Tout-Puissant. Voilà. Mais le fait que nous soyons appelés à aller jusqu'au bout d'une adoration amoureuse, ne va pas nous empêcher de reconnaître ce qu'il y a de bon et de vrai et de beau dans une adoration encore imparfaite. Surtout que chez nos frères musulmans, il y a quand même un beau sens de la une soumission totale, quoi. Dieu est Dieu, quoi. Moi, c'est clair. Inch'Allah. Vous savez que, Inch'Allah, si Dieu veut, les chrétiens arabes le disent aussi. Parce que, comme d'ailleurs on entend, enfin, c'est surtout mes frères et sœurs antillais souvent ils disent, oh, ben, si Dieu veut, oui. Hein, ben, c'est beau, oui. Et simplement, on peut le dire amoureusement. Saint François de Sales qui a cette belle expression à propos de l'obéissance. Hein. Obéissez enfin doucement, sans réplique, promptement, sans retardation, gaiement, sans chagrin, et surtout obéissez amoureusement pour l'amour de celui qui, pour l'amour de nous, s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je vous ai parlé de l'obéissance à l'autorité. D'ailleurs, l'obéissance à l'autorité légitime, c'est l'obéissance à Dieu. Et ici, ça vous doit dire, mais obéissez amoureusement à celui qui s'est fait obéissant pour vous. Voilà, ça, c'est notre privilège en tant que chrétien.
Oui, je voulais simplement faire un peu de logique à partir de la parole qui a été citée par le Père tout à l'heure, c'est peut-être pas exactement cette parole-là, mais c'est synonyme. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. La logique, le corollaire, c'est quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements. C'est-à-dire qui va tuer, qui va voler, etc., etc. Qui va commettre l'adultère, qui va mentir. Je trouve que c'est éclairant de voir ce corollaire à la fois pour soi et pour la société aujourd'hui. Celui qui ne m'aime pas va voler, va mentir, va tuer.
Alors, maintenant nous passons à la deuxième partie. J'ai insisté jusqu'ici sur la lumière. Comment, notamment, suivre un chemin de justice pour marcher dans la lumière de l'amour, le disposer à la lumière de l'amour, déjà en nous soumettant à la loi et aux exigences de notre conscience. Et tout ça pour être des personnes lumineuses. Pour que la lumière que Dieu met dans nos cœurs puisse se refléter dans notre vie. Et révéler le vrai visage de Dieu. À ce sujet-là, il m'est revenu, une recommandation de Saint Pierre. Vous voyez, ayez au milieu des nations une belle conduite. Conduite lumineuse. Afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteur, des petites références, hein, la vue de vos bonnes œuvres, littéralement en grec de vos belles œuvres, de vos œuvres lumineuses, les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Et encore, soyez toujours prêts à défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec douceur et respect, ça par rapport à la manif pour tous, hein, avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, respecte la justice, il y a des règlements, on les respecte, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, soit confondu ce qui décrit votre belle conduite en Christ. Là, c'est l'aspect du témoignage, qui va être lumineux. Finalement, confond ce qui décrit le christianisme, hein, en nous s'accusant notamment d'intolérance. Voilà. Alors le pire, ce serait d'exercer la vertu de religion, entre guillemets, d'une manière violente, nous attend là. C'est vraiment le malin qui cherche à nous faire répondre au mal par le mal. Il ne faut vraiment pas rentrer dans cet engrenage. Même sous prétexte de réalisme. Parce que ce réalisme, comme dirait Saint François de Sales, est niaiserie. Ce réalisme, c'est celui qui parie sur Dieu, sur ce qui se vit dans le cœur et sur ce primat de la grâce et de l'amour. Ça, c'est réaliste. Le reste, c'est de la niaiserie, du faux calcul. Alors, bon, cet aspect, vous voyez, du témoignage lumineux se heurte à quoi ? Se heurte à l'aveuglement. Dans l'Évangile, nous connaissons bien ce passage où Jésus dit « Celui qui fait le mal déteste la lumière, de peur que ses œuvres lui soient reprochées. » Il y a en tout homme une résistance à la lumière, une résistance à la vérité, tout simplement parce que personne n'aime à reconnaître son péché. Le témoignage des saints, hein, comme aussi la proclamation de l'Évangile, se heurte à de terribles oppositions, tout simplement parce que là, personne n'aime les reproches. Qu'est-ce que fait le feu ? Le feu éclaire, mais le feu brûle aussi. Le feu de la charité, il doit éclairer, c'est sûr, mais il doit brûler aussi. Et il brûle quoi ? Le péché. Il doit brûler le péché. Brûler les résistances. Brûler ce qui s'oppose à la lumière. Jésus a prêché, il s'est heurté à des résistances terribles, notamment du côté des pharisiens. Lui-même, qui est la lumière pure, n'a pas pu, éclairer les consciences des pharisiens jusqu'au bout. Les conversions ont eu lieu quand ? À partir de quand il y a eu des milliers de pharisiens qui se sont convertis ? Après la passion. Une fois que Jésus a versé son sang. Donc en fait, il ne nous a pas sauvés d'abord par sa parole, même si sa parole salvifie. Mais il faut rester toujours conscient qu'il nous a sauvés d'abord par son sang versé.
Même par les miracles.
Il ne nous a pas sauvés par les miracles non plus, qui ont été des signes. Hein, mais en définitive, il a fallu qu'il purifie, fasse une œuvre de purification pour que la lumière puisse passer. Ad lucem per crucem, à la lumière par la croix. Et en fait, il n'y a pas d'autre source de salut qu'il n'y a pas de salut d'œuvre salvifique qui ne s'enracine dans la croix. Je veux dire que la parole lumineuse, elle ne peut toucher l'homme est l'amener à se convertir que si elle est portée par un amour purificateur. Un amour capable de purifier celui qui reçoit cette parole de ses résistances. Rejoindre ça avec notre double vocation comme baptisé. Enfin, elle est triple, mais on est à la fois prophète, prêtre et roi. Et je voudrais surtout insister sur le fait qu'on est prêtre, c'est-à-dire le prêtre, c'est précisément celui qui offre des prières et des sacrifices pour la rémission des péchés. Le pardon des péchés. Jésus est mort sur la croix comme prêtre. Il a annoncé l'évangile pendant 3 ans comme prophète, nous avons cette double vocation prophétique et sacerdotale de par notre baptême. Et nous l'exerçons d'une manière royale. C'est-à-dire à la fois comme serviteur, et mais aussi dans cette dignité de fils de Dieu et dans cette sorte de, comment dire, j'ose dire, de pouvoir que donne l'amour. C'est-à-dire celui qui parie sur l'amour, de fait, s'élève au-dessus du pouvoir du monde. C'est par notre humilité que nous sommes grands, hein. Nous sommes rois par notre humilité, mais nous sommes appelés à vivre royalement notre mission prophétique et sacerdotale. Alors la mission sacerdotale, donc, consiste essentiellement à vivre le feu de la charité comme un feu qui consume le mal du péché. Et comment pouvons-nous le vivre, ça? Comment pouvons-nous aimer concrètement dans nos actions d'un amour qui libère l'autre de son péché? Vous voyez, ça, c'est une question encore plus fondamentale, finalement. Si on posait la question comment notre action peut être lumineuse, on a essayé d'éclaircir ce sujet-là. Et maintenant, comment notre action peut être sanctifiante, purificatrice, vraiment salvifique. Alors, pour répondre à cette question, voyez, je fais quand même un petit détour. D'abord, prendre conscience que le péché, c'est une réalité objective, comme dirait Benoît XVI. Le péché a un poids, il a une puissance, notamment une puissance destructrice beaucoup plus grande que nous pouvons l'imaginer. La faute est une réalité, dit Benoît XVI, une réalité objective, elle a causé une destruction qui doit être surmontée. Il en parle à propos du pardon. C'est pourquoi le pardon doit être plus qu'une volonté d'ignorer ou d'oublier. Si quelqu'un a commis un péché, on dit simplement, oh, c'est pas grave. Ça résout rien. Le péché, il est là, et ses conséquences destructrices, elles sont là. On peut toujours se voiler les yeux, essayer de passer au-dessus, mais non. Non, il y a quelque chose qui a été détruit en celui qui a commis le péché, mais aussi pour les autres. Le péché est un acte suicidaire. Mais c'est un acte aussi qui produit la mort autour de nous. Benoît XVI insiste sur le fait que le mal doit être surmonté intérieurement. Celui qui pardonne doit le brûler au-dedans de lui et ainsi se renouveler, sans qu'il fasse entrer l'autre, le coupable, dans ce processus de transformation et de purification intérieure. Tous les deux se renouvellent en souffrant le mal jusqu'au fond, en le surmontant. C'est là que nous butons sur le mystère de la croix du Christ. Mais tout d'abord, nous butons sur les limites de nos propres forces à guérir et à surmonter le mal. Nous butons sur la supériorité du mal, que nous ne pouvons vaincre par nos seules forces, ça, si on s'inscrivait ça dans la tête. La supériorité du mal. D'ailleurs, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, mais ça aide à comprendre la bonne nouvelle. On ne peut pas surmonter le mal par nos propres forces. On ne peut pas arrêter l'incendie du mal par nos propres forces. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvé. Sinon, il n'y aurait pas de salut nécessaire. Sinon, Dieu ne serait pas mort sur la croix. Si nous pouvions nous libérer nous-mêmes et nous libérer les uns les autres du péché. Mais ce n'est pas possible. Le péché est beaucoup plus grave et plus puissant que nous l'imaginons. Là aussi, vous voyez, on est dans une société qui a perdu le sens du péché. Puis on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. Donc, alors, ce n'est pas une question de culpabiliser, c'est une question de réalisme. Tant qu'on n'a pas une vision réaliste du péché, on n'a pas une vision réaliste de la rédemption, on n'a pas non plus une vision réaliste de la vie. En réalité, il n'y a qu'un seul mal absolu qui est à l'origine de tous les autres maux, ça s'appelle le péché. Après, il y a d'autres mots. Hein. Le mal, c'est la privation du bien. Alors, on peut être privé de nourriture, c'est un mal. On peut être privé de sommeil, c'est un mal. On peut être privé de santé, c'est un mal. Mais le mal absolu, c'est quand on est privé du bien absolu. Le bien absolu, c'est Dieu. Et le péché, c'est ce qui nous prive de Dieu. C'est le seul mal absolu. Ce mal, à l'origine de tout un processus de destruction dont nous n'arrivons pas à saisir le chemin. Les choses nous échappent là aussi. Comme elles nous échappent par rapport à la manière dont la charité transforme les choses de l'intérieur, nous ne voyons pas bien à quel point le péché détruit. Écoutez, je vous cite ici Saint Jacques. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. L'origine du péché, il y a une tromperie. On se laisse séduire. Par une convoitise qui nous promet le bien, qui nous promet le bonheur et qui nous trompe. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son terme enfante la mort. Pensez à la parabole du fils prodigue. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Évangile? C'est que Dieu est descendu dans cette mort. Dieu a voulu prendre sur lui toute la puissance destructrice du péché, de tous les péchés, de tous les temps. Vous voyez ce que fait un péché grave dans la vie d'un homme, à quel point c'est lourd pour une femme d'avoir avorté, par exemple. Ou bien ça la détruit intérieurement. Ici, je ne porte aucun jugement. Je constate que l'acte en lui-même, même vécu dans un grand aveuglement et avec peu de responsabilité morale, a une puissance destructrice beaucoup plus grande que ce qu'on veut le dire. Regardez le péché d'orgueil de certains hommes, je dirais, c'est un certain personnage effroyable de l'histoire, qui a semé la mort dans le monde entier. Pensez que l'agneau immaculé a porté tout ça. Tout, avec une sensibilité qui dépasse tout ce que nous pourrons éprouver, nous. C'est-à-dire, seul celui qui aime jusqu'au bout peut mesurer jusqu'au bout le mal du péché. Plus on aime, plus on souffre du péché. Parce que c'est la différence qui fait souffrir. Quand dit Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il l'enlève parce qu'il le porte. Il le porte et il le consume. Mais cette consommation du péché par l'amour se fait dans la souffrance. Là, on ne peut pas mesurer. Donc, notre espérance, elle est qu'il y a un amour victorieux. Si nous cherchons à comprendre quelle forme a pris cet amour, nous pouvons le comprendre en voyant qu'est-ce qui est à l'origine du péché, qu'est-ce qui est l'essence du péché. c'est la désobéissance, c'est le refus de se soumettre à Dieu, c'est le refus de dépendre de lui. Qu'est-ce qui peut éponger le péché? L'obéissance seulement, l'abandon. L'abandon total. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La dernière parole du Christ. Donc, l'amour sauve, purifie, dans la mesure où il prend la forme qu'a pris l'amour du Christ sur la croix, c'est-à-dire celle d'un abandon à Dieu. Et concrètement, dans notre vie, comment on peut, dans nos relations aux autres, dans les difficultés relationnelles qui sont toujours liées à des formes de péché, comment on peut surmonter les difficultés? Parce que des fois, on parle bien, ce qu'on dit est clair, on est dans la vérité, et puis on se heurte à des murs. Hein. On ne voit pas comment sortir de ces impasses. La question qu'on pose, c'est ici, quel exercice des vertus? Comment par l'exercice des vertus, je peux participer à l'action purificatrice du Christ, prendre ma part pour la rédemption. Que je vais être amené à parler des vertus évangéliques. Vertus qui naissent au pied de la croix, comme dit saint François de Sales. C'est-à-dire, c'est les vertus que Jésus a exercées lui-même dans sa passion. Si nous voulons le suivre, et prendre notre part de souffrance, comme dit saint Paul, en bon soldat du Christ, pour l'œuvre du salut, il nous faut... pour laisser le feu de la charité divine brûler en nous, exercer trois vertus, qui sont appelées les vertus évangéliques, que Benoît XVI appelle les vertus christologiques. Parce que ce sont celles qui nous conforment le plus à Jésus dans le mystère de sa passion. Donc qui aide la charité à prendre la forme de l'abandon total, d'une remise totale de nous-mêmes. À Dieu. L'humilité, la douceur et la patience. Ces trois vertus reviennent constamment. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres. Alors, saint François de Sales dit que c'est des petites vertus. Des vertus qui ne sont pas aussi attractives que la force, la tempérance, la justice, la prudence, qui ne sont pas directement non plus, vous voyez, tournées vers l'action. En fait, elles sont là pour nous aider à porter. Mais dans notre vie, on a plus de choses à porter qu'à faire, non? Plus de choses à supporter qu'à faire, non? En tout cas, sans qu'on le sache quelquefois, le plus difficile est d'arriver à tenir bon en supportant le poids de l'autre. Et notre propre poids, il faut se supporter soi-même aussi, avec humilité, douceur et patience. Se supporter soi, supporter l'autre, et supporter des situations injustes, porter. Et porter, c'est passif quelque part. Enfin, c'est une passivité hyperactive, si je puis dire, qui engage notre liberté dans ce qu'elle a de plus intime. Mais ce n'est pas quelque chose de brillant, quoi. C'est pas quelque chose qui brille aux yeux du monde. Personne qui porte des situations difficiles dans son cœur, douloureusement, mais avec patience, avec un cœur doux et humble, sans juger, sans s'opposer, et qui porte. Personne ne fait attention, hein. Peut-être elle ne pose aucune action d'ici qui soit objet de l'admiration des foules. Hein. Mais en attendant, c'est elle qui fait le travail de fond. Elle purifie. Actuellement, Benoît XVI, il parle plus, mais il porte. Il a dit à son successeur qu'il le priait continuellement pour lui. Donc il le porte continuellement dans son cœur, dans sa prière. Il porte. Hein?
Il a de la chance, le successeur.
Oui. Mais vous voyez comme c'est important dans l'Église qu'il y ait des âmes qui vivent jusqu'au bout de sacerdoce baptismal. Offrir des prières et des sacrifices. Des sacrifices, c'est tout ce qu'on accepte d'abord de souffrir avec patience. Quand il est venu à Lourdes, Benoît XVI a cité la petite Bernadette, tout souffrir en silence pour plaire à Jésus. Pour pouvoir dire cela, il faut déjà avoir parcouru un long chemin en union avec Jésus. Et réaliste, hein. Il dit avant, pour chacun, la souffrance est toujours une étrangère, sa présence n'est jamais domesticable. C'est pourquoi il est difficile de la porter. Et plus difficile encore, comme l'ont fait certains grands témoins de la sainteté du Christ, de l'accueillir comme une partie prenante de notre vocation. L'accueillir comme une partie prenante de notre vocation. Comme prêtre. Le prêtre offre des prières et des sacrifices pour la rémission des péchés. Vous voyez, là, on a une autre face de notre vie, la face cachée. La plus souterraine, mais en réalité la plus féconde. Et Benoît XVI a remis cette face cachée à l'honneur, si je puis dire, en posant l'acte qu'il a posé. Il a fait comprendre que la fécondité d'une vie ne dépendait pas d'abord des actes extérieurs, mais de la profondeur de cet abandon, de cette livraison, de cette remise de lui-même, dans l'humilité, la douceur, la patience. Ce qui sauve le monde, ce n'est pas le pouvoir mondain, mais l'humilité, la croix et l'amour. Dans la croix, il y a la patience. Le fait de porter les choses n'empêche pas d'être actif. Mais vous pouvez comprendre qu'il faudrait toujours agir, idéalement, hein, en s'appliquant d'abord à porter les situations pour ensuite pouvoir les transformer réellement.
Oui. Oui, moi, quand vous parlez de ces petites vertus, humilité, douceur, patience, ça me fait penser à la fin de vie de mon papa. En fait, j'ai un papa qui était très actif, très droit, très juste, enfin, qui faisait beaucoup de choses, assez peu patient. Et il a fini les deux derniers de sa vie, il avait un cancer très grave, donc il savait à peu près qu'il était condamné. Et il a fini sa vie avec une humilité et une patience qui nous a beaucoup touchés et qui ne correspondait pas du tout à son caractère finalement. Et je me dis maintenant que c'est le plus beau cadeau qu'il a pu nous faire, finalement, alors que je l'admirais pour toutes ses autres qualités, pas pour celle-là. Et a posteriori, je trouve maintenant qu'il a beaucoup changé maman, par exemple, qui quelque part, je dirais pas qu'elle se convertit, parce qu'elle était pas loin de Dieu, mais qui, je pense, se rapproche beaucoup de Dieu grâce au comportement de papa.
Mais regardez le fruit qu'a porté la patience de Jean-Paul II dans sa maladie. Lui qui était un hyperactif, qui a accepté de rentrer dans la passivité de Marie. la passivité de Marie Kadéa Ratzinger avait dit dans un document consacré à la femme, la place de la femme dans l'Église, parce que les femmes ont plus de dispositions naturelles à porter, mais nous les hommes, nous pouvons aussi apprendre à porter en y mettant l'école de Marie. Marie au pied de la croix, c'est le modèle de l'âme qui porte. Et Kadéa Ratzinger avait dit que la passivité était le secret de l'amour vainqueur. Le secret de l'amour vainqueur, on l'a touché du doigt quand on a vu le rayonnement de la mort de Jean-Paul II. Il a fait plus, j'ai le sentiment, dans les dernières années de sa vie, en acceptant ce chemin d'abandon dans la patience, l'humilité, je veux dire la douceur aussi, on a surtout vu cet aspect d'humilité et de patience. Et il a dans le sentiment que j'ai que ça portait encore un fruit plus grand que tous ces voyages. Et moi, quand j'étais aumônier d'hôpital à l'époque, et les malades me disaient quel point, en pensant à Jean-Paul II, ils étaient aidés à vivre leur souffrance. Ils n'avaient jamais entendu, ils n'avaient jamais vu, mais ils étaient aidés. La simple pensée de Jean-Paul II, ils savaient probablement qu'il était en chaise roulante, mais vous voyez, c'est là où on voit le rayonnement du... La force, hein, l'interaction des âmes, quelqu'un ça, qui vit jusqu'au bout la passion de Jésus, qui s'enfonce dans le mystère, ouais, il porte et il aide les autres aussi à porter. Ah, ça, c'est la face cachée de l'Église. Elle est plus représentée par l'aspect marial. Femme qui sait ce que c'est que porter la vie en soi, que porter une vie, que la protéger, que l'envelopper d'amour. Et nous sommes faits pour nous porter les uns les autres. Saint Paul dit porter le fardeau les uns les autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Alors, ce chemin qui va jusqu'à l'amour vainqueur ne peut pas être facile, pas être court, il n'y a pas de raccourci. Souvent, la première chose, c'est pouvoir accepter l'épreuve. Accepter, par exemple, l'obstination de l'autre qui s'oppose à ce que nous lui disons, alors que nous lui disons... Ça relève du bon sens, ça me semble tellement évident ce que nous disons. Pourquoi il n'accepte pas? Pourquoi il ne reconnaît pas que ce que nous disons c'est vrai? Tant qu'on laisse un espace à la colère, à la révolte, on rate la première marche qui est l'acceptation. Mais dépasser la colère et la révolte, ça ne se fait pas comme ça. Comme dit Benoît XVI, c'est un long chemin. Alors ici, il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, je me suis souvent tombé dans le piège de prendre mon vouloir accepter pour l'acceptation. Ou même carrément de passer tout de suite à l'offrande. Jésus, je t'offre, mais en fait, au fond de moi-même, je n'ai pas digéré la chose. Je te chauffe, et puis après, c'est 6 mois après, la grosse colère. Vous voyez, parce que on voudrait arriver à surmonter par nos propres forces, quelque part. Or, là, il faut se rappeler cette expression de Benoît, c'est la supériorité du mal. Et on ne va pas pouvoir l'assumer sans le don de la charité divine. On a besoin du cœur de Jésus. On a besoin de se réfugier dans le cœur de Jésus. Dans son humilité, dans sa douceur, dans sa patience. Et pour pouvoir laisser le feu de la charité divine brûler en nous et consumer effectivement, assumer et consumer le mal du péché. Je vous rappelle la réponse de Benoît XVI, que je n'arrête pas de citer, dans son premier discours improvisé auprès d'Aoste. C'est l'évêque finalement d'Aoste, j'ai relu le discours, qui lui a confié des questions pastorales et humainement sans issue. Réponse. Le pape n'est pas un oracle. Il est infaillible dans des situations très rares, comme nous le savons. Je partage donc avec vous ces questions. Comment dis-je ? j'ai pas une solution comme ça immédiate à vous proposer, j'en vois pas. La situation est bloquée, elle est bloquée, humainement. On peut utiliser toutes les techniques d'évangélisation qu'on veut. Là, on sent bien qu'on se heurte à un mur. La suite. Je souffre, moi aussi. Situation semblable. Mais tous ensemble, nous voulons d'une part souffrir sur ces problèmes, et également, tout en souffrant, transformer les problèmes. Car la souffrance est précisément la voie de la transformation, et sans souffrance, on ne transforme rien. Tel est également le sens de la parabole du grain de blé tombé en terre. Ce n'est qu'à travers un processus de transformation de la souffrance que l'on parvient au fruit et que la solution apparaît. Là, chaque mot est important. Vous voyez, je ne vois pas, premier temps, pas des paniméras, je ne vois pas de solution. Je souffre, et tout en souffrant, je transforme. Et en fait, la solution, elle apparaît, pourquoi? Parce que la situation se transforme effectivement. Il y a une brèche qui s'ouvre. Il y a une lumière qui apparaît, il y a une solution qui apparaît, mais parce qu'il y a un travail qui s'est fait. C'est fait. La possibilité d'une action féconde s'ouvre. L'action vient dans un deuxième temps. Ad lucem per crucem, à la lumière par la croix. Je porte et j'agis. Mais je ne pourrais pas transformer une situation que je n'accepte pas de porter. Dans la lumière de la croix, nous pouvons affirmer ça. Je ne peux pas aider quelqu'un à changer si je ne supporte pas la personne. Donc des parents qui voudraient corriger leur enfant sans passer par cette logique du grain de blé, comme dit Ben Massel, sans rentrer d'abord dans l'humilité, la douceur et la patience du Christ, deviennent des parents forcément maladroits, parce qu'il leur manque la lumière ne peut pas venir. La solution, l'acte juste au moment juste ne peut pas venir si on n'accepte pas ce passage purifiant, si je puis dire, de transformation de nous-mêmes aussi, et puis de la situation, parce que nous-mêmes, en portant notre amour grandi, on va jusqu'à l'amour le plus grand, qui est de donner sa vie, de remettre sa vie pour l'autre, d'accepter de souffrir pour l'autre à cause de l'autre, d'accepter de porter le fardeau de l'autre. Donc nous-mêmes, nous grandissons, la situation, elle est portée par un feu qui purifie la situation du péché, qui, si je puis dire, éponge le péché et arrête l'incendie du mal. Puis, l'action concrète à ce moment-là prolonge. Elle est portée par cet amour le plus grand. Elle est efficace d'une efficacité qui est celle de la croix. Ben, il en faudrait de la sagesse pour agir toujours comme ça. Ben, c'est le secret de l'amour vainqueur. Vous voyez, s'il n'y avait pas le péché, il suffirait d'être adorateurs, tous dans cette attitude d'adoration, et on se communiquerait la lumière les uns des autres, il n'y aurait pas d'obstacle à la lumière, on s'édifierait les uns des autres, on grandirait ensemble dans l'amour sur cette terre, dans la joie, la lumière et la paix. Il n'y avait pas de place ni pour la souffrance ni pour la croix, pas besoin de patience, tout baignerait dans la lumière et on grandirait jusqu'à ce qu'on s'élève jusqu'au ciel. Voilà. Ben non, c'est pas si simple. Voilà. Et ce problème, c'est qu'il y a la réalité du mal. Et la croix est nécessaire à cause du péché. Et ça, il faut pouvoir le comprendre une bonne fois pour toutes, parce que sinon on est des naïfs. Hein. si on veut faire abstraction de la réalité du mal, si on veut dire mais non, mais c'est pas grave, les gens sont, oh, ils sont gentils finalement, ils sont gentils. Mais le péché reste le péché. C'est-à-dire, c'est pas. Vous voyez, on n'a pas le droit d'être naïf. Et on n'a pas le droit de passer à côté de ce qui est le cœur de la rédemption, parce que sinon, on va dépenser beaucoup d'énergie sans aller jusqu'à la racine du mal.
Dans ces trois vertus, humilité, douceur et patience, je n'en vois aucune pour lesquelles qui requiert une aptitude intellectuelle quelconque. Ce qui est à la fois très rassurant compte tenu de l'ensemble du message évangélique, mais ce qui est aussi, je veux dire, c'est cohérent avec le reste du message évangélique, mais c'est aussi ennuyeux. Quand on pense soi-même être intelligent. Et ça me rappelle une autre parole du Christ, c'est comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux.
Si tu crois ça,
je remercie Michel parce que ça m'a rappelé que Marc Robin, on lui parlait d'une personne, d'un enfant handicapé, et elle s'était exclamée spontanément le Rédempteur. Je pense à la petite Philippine, je pense à d'autres enfants, des grabataires, vous voyez, des âmes qui sont ligotées au niveau de l'action, ne peuvent pas utiliser leurs facultés comme nous. Hein. Mais elles ont une âme et un cœur comme nous exactement, elles sont tout à fait créées à l'image de Dieu. Si elles ont été baptisées, elles ont cette grâce de sacerdoce baptismal comme nous. Est-ce qu'elles ne peuvent pas exercer leur sacerdoce prophétique? Je ne dirais pas ça, parce qu'elles rayonnent de la lumière. Si elles sont dans l'amour, elles rayonnent de la lumière. Mais elles vivent surtout le sacerdoce baptismal, au sens où elles portent. Et elles portent plus qu'on imagine. Elles sont des âmes extrêmement sensibles qui ressentent tout ce qui est contraire à l'amour. La mère de Philippine, cette femme qui a écrit ce livre sur... la manière dont elle a accueilli son enfant polyhandicapé, le chemin que ça lui a fait faire, qui est la sœur, la belle-sœur de Michel, la sœur de Michel, elle, ça y est, j'ai perdu le, elle, oui, elle disait que sa petite fille ne pouvait pas manger si elle donnait la cuillère en faisant autre chose elle-même ou en pensant autre chose. Pour ouvrir la bouche, elle avait besoin que la cuillère soit donnée dans une présence à elle, à l'action complète. Vous connaissez un homme intelligent qui a une telle finesse parmi nos intellectuels distingués?
Parmi nous?
Oui. Hein? Bon. Donc en fait, une intelligence du cœur beaucoup plus vive. Bon. Et alors, elle est sourde, elle est muette, elle est aveugle, tout ce qu'on veut. Mais quand il y a la louange en famille, elle tape la mesure. Hein? Parce que le cœur, c'est le lieu de l'ouverture, de la réceptivité. Vous pensez qu'il y a un esprit et un cœur, d'ailleurs ce corps qui est déformé par l'handicap, et plutôt handicapé, qui est sans capacité d'action extérieure, il y a toute une vie intérieure. Et cette âme créée à l'image de Dieu, faite pour l'amour, vibrant à l'amour divin, elle a son chemin de patience. Elle peut s'enfoncer dans la patience du Christ. Plus ou moins. Il y a la liberté. Ici, on est dans une liberté de consentement, pas une liberté de faire. Consentement. Qui fait qu'on prononce son fiat au plus intime de soi. Fiat à la volonté divine, le fiat à la croix. Voilà, et tout ça animé par l'Esprit Saint. De penser que ce sont des âmes comme ça qui épongent, qui réparent, qui purifient. C'est pas pour rien que le démon cherche à les supprimer, ces enfants handicapés. Merci Michel pour cette remarque. Mais c'est vrai que vous voyez, ces vertus d'humilité, douceur, patience sont des vertus ultimes, si je puis dire, qui resteront toujours exerçables, si je puis dire. Dans des situations où on n'a plus la force pour agir, on n'est pas en pleine possession de ses facultés, peut-être que pour des raisons psychiques et tout ça, on est incapable de se maîtriser, par exemple, on se sent complètement perdu et incapable de rien. On peut toujours se réfugier dans le cœur de Jésus, tout si humble, patient, et consentir à porter avec lui. Vous voyez, au niveau de ces vertus évangéliques, il n'y a pas de temps perdu pour l'amour. Si on se situe simplement au niveau des grandes vertus, entre guillemets, des vertus cardinales, qui nous permettent d'agir d'une manière juste, lumineuse et tout ça, on aura forcément l'impression qu'on est dans une situation d'impasse et on peut tenter de désespérer. Et imaginons même que la manif pour tous a été superbement lumineuse, c'est pas pour autant qu'on aurait vaincu. Elle n'a pas été totalement lumineuse, mais il y avait quand même de l'amour, il y avait un bon esprit, de manière générale. En fait, moi, là où j'étais, il y avait un bon esprit. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on se heurte à une puissance de résistance qui appelle à la croix. Qui appelle à porter la croix.
Comment faire pour faire preuve d'humilité, douceur et patience pendant qu'on est en train de vous déverser des gaz lacrymogènes?
C'est ce qui donne l'occasion d'exercer l'humilité, la douceur, la patience, les gaz lacrymogènes. Mais
je pleure beaucoup dans ces cas-là, c'est vrai, mais je suis pas sûre que ça soit.
Mais il faut comprendre que la douceur dont il s'agit, c'est la douceur du cœur. Elle n'empêche pas la fermeté. Alors. Ça me rappelle le commentaire que fait Saint Jean du Christ qui est giflé. Puisque Jésus, dans l'Évangile, nous dit, si on te gifle la joue, c'est plus ce verbe, hein. La joue droite dans la joue gauche, je ne sais plus. Hein?
Ça dépend comment on regarde.
Enfin, c'est pas l'essentiel. Vous voyez, ma mémoire est plus que défaillante. Mais en tout cas, de fait, Jésus n'a pas tendu l'autre joue. On me dit qu'il n'a pas été vraiment doux puisqu'il a répondu. Il a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi ce qui est mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc il a eu une réplique et puis une correction, il a corrigé. Et saint Augustin commente en disant, mais Jésus a tendu l'autre joue parce qu'il était prêt à subir encore une humiliation de la main, de recevoir encore une autre humiliation de la main du Père. Il a tendu l'autre jour par son acceptation, par sa patience. Mais il a exercé la charité dans la correction. Il a exercé sa vocation prophétique en même temps qu'il a porté. Donc il a parlé, mais il a porté aussi. Mais il a porté dans le secret. Il a été doux de la douceur du cœur et ferme par une parole lumineuse. Mais une parole qui était efficace par sa douceur intérieure, par sa patience. On pourrait commenter aussi l'exercice de l'humilité. Il ne s'agit pas de se dénigrer soi-même, évidemment. De toute façon, on ne peut pas s'humilier vraiment soi-même. Il n'y a que Jésus qui peut nous conduire sur le chemin de l'humilité. C'est l'humilité du Christ dont nous avons besoin, de nous laisser attirer par son abaissement. Écoutez saint François de Sales. Il parle au XVIIe siècle. Hein. Nous disons maintes fois que nous ne sommes rien, que nous sommes la misère même et l'ordure du monde. On ne le dit même pas, nous, même pas à l'époque, vous croyez. Hein. Mais nous serions bien Marie qu'on nous prît au mot et que l'on nous publia tel que nous disons. Au contraire, nous faisons semblant de fuir et de nous cacher afin qu'on nous court après et qu'on nous cherche. Nous faisons contenance de vouloir être les derniers et assis au plus bas du bout de la table, afin de passer plus avantageusement à l'autre bout, au bout. Vous voyez, comme le cœur de l'homme, il est tortueux, hein, on est malin, hein, on s'humilie pour se glorifier. Non, je pense que c'est impossible de s'humilier de soi-même. D'abord, ce serait une contradiction, ce sera vouloir se sauver soi-même. C'est déjà une forme d'orgueil. Mais par contre, nous pouvons deux choses. Je pense qu'il y a deux voies que je vois essentiellement pour exercer la vertu d'humilité. D'abord, nous laisser attirer par l'humilité du Christ. C'est-à-dire voir dans cette humilité du Christ la vraie grandeur, la vraie gloire, la gloire de l'amour pur. Ce qui fait la pureté de l'amour, c'est l'humilité. Donc à ce moment-là, on est attiré par la petitesse du Christ, par son abaissement, et on choisit la dernière place parce que c'est sa place à lui. Et qu'on veut être avec lui. Ça, c'est la voie royale. C'est la voie de Marie. Elle s'est laissée attirer par l'humilité du Christ. Elle a grandi en humilité à l'école de Jésus. Mais elle perd Thomas Philippe, quand Jésus conçu dans son sein, eh bien, elle a trouvé plus petit qu'elle. Donc elle s'est laissée attirer par cette toute petitesse de son Dieu fait homme. Et puis la deuxième voie, c'est la voie, je dirais, dans le concret de la vie. Si on veut nous laisser attirer par l'humilité du Christ, ça veut dire aussi accepter les humiliations. C'est-à-dire les humiliations deviennent le terrain. Les humiliations, pas celles qu'on se donne à nous-mêmes en disant qu'on n'est rien. Mais les humiliations que la vie nous offre. Et pour ça, le fondateur de la communauté d'Emmanuel aimait citer la petite la Bernadette qui disait il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Jusqu'ici, on n'a pas dépassé cette recette-là. Et l'heure passe, l'humilité, la douceur est peut-être, va de pair avec une grande fermeté. Tout comme l'humilité nous donne des ailes, dit saint François de Sales. Quand on est humble, on est audacieux en même temps, parce qu'on ne s'appuie pas sur ses propres forces, donc on n'a peur de rien. Hein? La simplicité, oui. Benoît XVI, il disait souvent « Allez de l'avant, hein. Nous allons de l'avant parce que nous mettons toute notre confiance en Dieu et non pas en nous-mêmes, donc on ne craint rien. » Que notre humilité soit fière, que notre fierté soit humble, que notre douceur soit ferme. Il faut être doux et pas mou. Et là aussi, quand on veut être doux soi-même, souvent on tombe dans une sorte de mollesse qui fait fuir en réalité, enfin qui ne sert à rien. Alors,
Je voulais juste rajouter un petit mot à propos de l'humilité, parce qu'on n'a pas prononcé le mot. Je pense que l'Église nous offre quand même un moyen assez merveilleux pour rester humble, c'est la confession, qui est une grande aide dans l'exercice des vertus, qui lui garde de s'enorgueillir de l'acquisition de nos vertus. C'est qu'on se rend compte en allant se confesser qu'on est vraiment, nul. Et en même temps, je trouve qu'on reçoit des grâces assez exceptionnelles pour la progression de ces vertus, justement.
Alors, je pense par rapport à la douceur. Vous voyez, la petite Thérèse, elle parlait avec ses novices de manière assez ferme. Elle dit que probablement ceux qui la liront penseront que ça ne lui coûte pas de leur parler d'un ton sévère, en leur montrant que leur bête poison s'allie. Enfin. Mais dans le fond, il semble que je les aide d'un véritable amour. Vous voyez, la douceur du cœur l'emporte. On peut avoir un caractère un peu autoritaire, comme ça. On a le caractère qu'on a, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est la douceur du cœur qu'il faut cultiver. Et puis, dans l'expression de l'acte, les choses s'expriment différemment. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une expression très forte. Par exemple, le Padre Pio, il était très, très énergique. Hein. Bon. Alors, et en fait, on pensait qu'il faisait des explosions de colère, mais il disait que non, enfin, il gardait la paix dans son cœur, mais il sentait que certaines âmes avaient besoin d'être secouées. C'est pour ça que là-dessus, il faut une certaine liberté, mais en tout cas, ça suppose toujours la paix du cœur et la douceur intérieure, et l'humilité, et sur fond de ça, et la patience, on va y venir, sur fond de ça, de fait, on peut se permettre d'être faible. Alors, j'en viens à la patience, il faudra... La patience obtient tout, disait Sainte Thérèse d'Avila. La patience qui fait qu'on attend avec constance le moment favorable, notamment pour pouvoir dire la parole. La patience, je vous propose de la considérer surtout dans cet exercice de l'écoute. Parlez avec quelqu'un qui ne veut rien entendre. Pariez sur la patience. Vous écoutez jusqu'au bout comme on boit une coupe. Parce que si la personne déverse sur vous sa colère, ses propos insensés, tout ça, et que Dieu dit qu'il n'y a rien de plus pesant que l'insensé. En fait, c'est lourd à porter des propos insensés. Ça nous révolte, on se dit, mais pourquoi il ne comprend pas, mais pourquoi il dit ça et... Bon, mais si on accepte de rentrer dans la logique de la croix, moi je veux dire que là-dessus, je n'ai pas été brillant cette semaine. J'étais une boule de nerfs, réagir au cas de tour. Mais quand je suis assez dans la prière, ça m'arrive quand même de vivre cet exercice de l'écoute consciemment comme un exercice de patience. Ça nous est offert tous les jours. Hein. Le moment de parler ne sera jamais le moment de notre impatience. Calme ta fièvre, il n'en viendra que du mal. Tout ce qui vient de la colère, d'une sorte de qu'on ne supporte pas et qu'on parle parce qu'on ne supporte pas, tout ça est absolument stérile au départ, à la base. Donc, profitez de ces moments d'écoute où on est appelé à rentrer dans une passivité, pour aller jusqu'au bout d'une remise de nous-mêmes et de notre vouloir faire, de notre vouloir dire, de notre vouloir faire comprendre, tout ça. Ça n'a pas de sens, on ne sait pas ce que l'autre a besoin d'entendre, on ne sait pas ce qu'il doit comprendre. Il faut laisser l'amour agir en nous et nous inspirer la parole forte et lumineuse, à la fois lumineuse et forte, forte de l'amour vainqueur. Il faut laisser ça mûrir en nous. Voyez, non, l'écoute, la patience de l'écoute. Et puis on sent un moment que ça sort. Et on dit la vérité de son cœur. On ne dit que la vérité de son cœur. On n'est pas dans le calcul, on n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas dans la manipulation. On dit la vérité de son cœur. Mais on le dit avec la prudence de l'amour, c'est-à-dire l'amour sans le moment de parler, le moment de se taire. Soyez candides comme des colombes, dites la vérité de votre cœur, prudents comme des serpents. Le sage sait attendre le moment, l'heure pour parler. On voit plusieurs fois dans l'évangile Jésus se taire. Il porte simplement. Il sait que l'heure n'est pas venue. Je termine. Les vertus évangéliques, Benoît XVI les appelle les vertus de l'unité. C'est les vertus christologiques, il appelle les vertus de l'unité. Parce que qu'est-ce qui divise, c'est le péché. Qu'est-ce qui unit, c'est la croix. Jésus est mort pour rassembler dans l'unité. Quand nous exerçons les vertus évangéliques, nous purifions ce qui divise et nous faisons la paix. Nous répandons la paix autour de nous. On éponge le mal diviseur, si je puis dire. Et donc, dans nos relations avec les autres, en fait, si nous voulons exercer les vertus évangéliques, il faut rechercher la communion d'abord. C'est-à-dire au sens, autant que c'est possible. On ne peut pas être en communion avec des gens qui refusent Dieu, mais on peut se faire proche d'eux, se faire solitaire d'eux, les porter. Vous voyez, ça rejoint la question du cœur ouvert. Si je suis ma pensée, mon idée sur ce qu'il faut faire, si je suis sûr de moi, je m'appuie sur mes propres forces, je commence tout de go un discours sur l'autre pour le convaincre que, en fait, je suis dans le vouloir faire et je passe à côté de l'amour qui recherche d'abord la communion, qui recherche d'abord d'être ouvert aux autres et d'être proche d'eux. Je ne peux pas porter l'autre si je ne me fais pas proche de lui, vous voyez. Je pensais que le plus important dans notre relation avec les autres, c'est d'abord de se faire proche, comme le Samaritain dit, qui s'approcha du blessé. On a un pape qui a passé son temps comme évêque à être proche des gens, aller les voir. Il n'a pas fait son ministère d'évêque devant l'ordinateur. Il ne s'est pas perdu dans le calcul. Il a vécu autant qu'il pouvait cette recherche de la communion, en portant les autres dans son cœur, en les aimant, en se faisant proche d'eux. Et nous, dans nos relations avec les autres, au lieu d'être enfermés dans notre vouloir faire ou nos projets, si on était d'abord à travailler la communion, à être proche les uns des autres, à s'ouvrir les uns aux autres, à se porter les uns les autres, à pratiquer les vertus de l'unité, parce que c'est cette unité à partir de laquelle, dans la communion, peut se réaliser des œuvres divines. Communion, c'est le fondement de la mission. Voyez, un couple, ils ont une mission commune, l'éducation. S'ils ne vivent pas d'abord la communion, qu'ils ne se supportent pas l'un l'autre, qu'ils ne cherchent pas d'abord à être en communion, ils ne pourront pas bien éduquer leur enfant. Mais moi, je me réjouis qu'on ait un pape qui ait un sens extrêmement fort de la proximité, de la relation, de l'amour du prochain, d'être bon, proche des gens, disponible, à l'écoute. Tout ça, on a l'impression que c'est du temps perdu, qu'il vaudrait mieux faire des choses. Mais non. C'est vivre concrètement le chemin de la rédemption. Résultat, consacrez-vous au cœur de Jésus. Et au cœur immaculé de Marie. Vous avez dans les petites feuilles la prière de consécration de Sainte Marguerite Marie. Une manière de terminer l'année, c'est de se consacrer au cœur de Jésus. Une consécration personnelle, une consécration familiale, l'intronisation du Sacré-Cœur. Mais dans les temps qui sont les nôtres, le refuge, c'est le cœur blessé de Jésus, plus et humble, et le cœur immaculé de Marie, pour pouvoir participer à un amour vainqueur.